Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir donc non seulement Pete Fromm pour son dernier livre « La vie en chantier », mais aussi Oliver Gallmeister qui sera notre traducteur d'un soir, mais qui n'est autre que l'éditeur et le créateur des éditions Gallmeister. Pete Fromm, nous sommes évidemment ravis de vous accueillir ce soir après votre longue tournée française. Vous êtes déjà l'auteur de plusieurs romans, plusieurs recueils de nouvelles, Indian Creek, Lucy in the Sky, Mon désir le plus ardent, Le nom des étoiles. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler donc de votre petit dernier, La vie en chantier. Donc, je vous laisse nous en dire quelques mots. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de votre dernier livre ?
It's really good.
Il est très très bon.
Unlike my earlier novels, which all grew out of short stories, and the stories, characters would not leave me alone after the story was done. So they just kept showing up in my office until finally I wrote a whole novel about them. This story started completely differently.
Contrairement à mes autres romans qui sont tous nés de personnages créés dans des nouvelles, des personnages qui ne voulaient pas me laisser seul, qui réapparaissaient dans mon bureau lorsque j'étais en train d'écrire et qui ont donné naissance donc à des romans, celui-là est né d'une toute autre manière.
I read a short story in a magazine which really struck me. It was a story about a man and his wife in the hospital. The entire story takes place in the hospital, and they're trying to keep his wife alive long enough to have a baby. And the story ends with the man being handed the baby, and his wife has died. And I thought, it was the perfect ending for that story. But I thought, but he has to go home, which I thought was the beginning of a much bigger story.
Dans la nouvelle que j'ai lue, c'était l'histoire d'un couple qui est à l'hôpital parce que la femme va accoucher. La nouvelle se passe entièrement dans l'hôpital et toute la nouvelle tourne autour du fait d'essayer de garder cette femme en vie pour qu'elle mette au monde leur bébé. Et à la fin de l'histoire, la femme décède et le bébé naît au monde et le jeune homme, le père, se retrouve seul avec son bébé dans les bras. Et je me suis dit, là, c'est la fin parfaite pour cette histoire. Mais cet homme va devoir rentrer chez lui. Ça va être le début d'une autre histoire.
And so instead of knowing the characters already, I was starting with a complete stranger walking into a house. So it was really much more like your experience. It was like reading. I got to know the character as the story went on.
Et donc, contrairement aux autres romans, je partais bien plus d'un personnage que je ne connaissais pas. Et donc, mon expérience s'est rapprochée de votre expérience à vous en tant que lecteur, de faire la connaissance d'un personnage et de petit à petit apprendre à le connaître, à le découvrir, de découvrir comme vous ce qui allait lui arriver.
Je vous ai déjà beaucoup lu, Pete Fromm. J'ai commencé avec Lucy in the Sky, puis j'ai continué avec Indian Creek. Et j'ai eu l'impression de lire deux auteurs complètement différents. Et pourtant, en continuant à vous lire, j'ai découvert qu'en fait, c'était un seul et même auteur, mais un auteur à plusieurs facettes. Qu'en dites-vous ?
I love this country.
J'adore ce pays.
If I get interviewed in the United States, it's lucky if they have read anything. No one has ever said, I've read all your work.
Quand je suis interviewé aux États-Unis, j'ai déjà de la chance si la personne qui m'interroge a lu au moins un livre. Personne m'a jamais dit j'ai lu tous vos livres.
And then to understand that so clearly, to me the great the draw I have into writing is that ability to put on any face, to tell one story one day and become someone completely different the next day. And find out what it's like to live another life. And instead of writing the same story over and over, get to be someone completely new.
Et pour revenir à votre question, pour moi, c'est justement ce qui fait l'intérêt de l'écriture, c'est de pouvoir commencer d'écrire un jour une histoire, d'être dans la peau d'un personnage, le lendemain d'être dans un autre personnage, dans une autre histoire, faire quelque chose de nouveau à chaque fois, et au lieu d'être tout le temps dans la peau de la même personne.
Alors, j'ai quand même remarqué qu'il y avait deux grands axes dans votre écriture. Donc, celui de la nature, évidemment, que l'on retrouve avec Indian Creek, le nom des étoiles, mais aussi l'intime, que l'on retrouve donc avec le Sea in the Sky, mon désir le plus ardent, et la vie en chantier. Qu'est-ce que vous en pensez?
I probably have at least two personalities.
J'ai au moins deux personnalités.
But the wilderness has pulled me in for my whole life and still does. And even in the novels, it's always a pull. Montana is such a big state, and if you try to use it as a background, it won't stay in the background. It will become a character in the story itself.
La nature, les grands espaces, ouais, a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Le Montana est un état tellement grand que même si on essaye d'en faire abstraction, on est toujours ramené à la nature et aux grands espaces de cet état.
And maybe one of the reasons I go into the wilderness so much by myself is because I don't really get people. And then, so when I write a novel, it's sort of trying to figure out how they work, which then goes into the emotions.
Et peut-être que justement l'une des raisons pour lesquelles je passe tant de temps dans les espaces sauvages lorsque je vais camper, c'est peut-être parce que je ne comprends pas bien les gens, que les gens m'échappent, et que écrire des romans, c'est le moyen pour moi d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, de comprendre leurs émotions.
Alors vous dites que vous ne comprenez pas bien les gens, et pourtant vous avez le don de les rendre si attachants. Alors comment faites-vous pour les rendre si réels, si attachants?
What's the trick?
Quel est le truc?
Maybe I don't know.
Je sais pas.
I try to get to know the characters like you would get to know anybody in your life. I don't sit down and write out a map of who they are. I just see them in action. And it's like if a neighbor moves in next to you, you start to spy on them a little. You see what they move into their house. You see how they act with their kids. And writing for me is very much the same thing. I just, a man brings a baby into his house, sets it on the floor, and walks into the other room. What's he going to do next? And so I get to know them the same way I get to know anyone else. And when it works, that comes across in the book.
Lorsque j'écris, je fais un peu la même chose que pour les gens dans la vraie vie. Comme lorsque vous avez un voisin qui emménage près de chez vous, vous l'espionnez un petit peu, vous voyez les choses qu'il emporte chez lui, vous voyez la manière dont il se comporte avec ses enfants. Et c'est en observant mes personnages que... j'essaie de les rendre, je les découvre et que je les rends crédibles. J'ai pas un plan bien établi en disant que lui sera comme ci, elle sera comme ça. Je les vois agir. Là, Taz rentre à la maison, il se retrouve seul avec un bébé. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devoir faire concrètement?
Souvent, les personnages que vous décrivez dans vos romans, que ce soit La vie en chantier, Mon désir le plus ardent, ce sont toujours des couples qui sont loin de vivre de manière aisée, dans le luxe. En général, ils vivent littéralement d'amour et d'eau fraîche. Est-ce que c'est votre vision un petit peu de la vie aux États-Unis aujourd'hui?
Sort of.
Un peu.
In Montana, it's way easier to find a beautiful view than it is to find work.
Pardon. Dans le Montana, il est beaucoup plus facile de trouver un beau paysage qu'il n'est facile de trouver un emploi.
And so, it's not a one bit uncommon, especially for young people, to have a struggle. It's difficult for them to get started. And usually, what you have at the start in a couple is love, and maybe not much else. They enjoy each other so much they'll take on all the risks.
Et donc, il n'est pas du tout rare pour des jeunes couples de n'avoir rien d'autre que l'amour, parce qu'il est difficile de trouver donc un travail. Et c'est assez fréquent, quand on est un jeune couple, de commencer sa vie avec rien d'autre que l'amour qu'on se porte l'un à l'autre.
And I get very interested in that, but what does come next? Even if the love hasn't run out, when things get tough, and that's where people really start to show who they are, I think.
Et je suis très intéressé justement pour savoir, enfin, à savoir ce qui va se passer après. Même lorsque on continue à s'aimer, dès que les choses deviennent compliquées, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Voilà mon centre d'intérêt.
Oui, parce que finalement, l'amour et l'eau fraîche ne suffisent pas toujours. Et c'est souvent, ça répond souvent à un équilibre assez fragile, les couples que vous décrivez. Et souvent, il leur arrive toujours quelque chose de dramatique dans Mon désir le plus ardent, la maladie. Et là, la mort en couche. Alors, quel besoin ou de quoi vous inspirez-vous, en fait, pour écrire des choses si dramatiques, finalement?
If you try to tell a love story without something getting in the way, you are telling the dullest story in the world. We were so happy. And the next day, we were happier. And tomorrow will be even better. And that's about as far as the reader will go. And so that, again, you put something in the way, and then you see who the people really are.
Si vous racontez une histoire d'amour et qu'il ne se passe rien de dramatique, vous racontez l'histoire la plus ennuyeuse du monde. Nous sommes très heureux, et puis demain, nous serons encore plus heureux, et puis après-demain, nous serons encore plus heureux. Et... une fois encore, je pense que c'est en confrontant les gens à des situations dramatiques qu'on apprend vraiment à savoir qui ils sont.
The poem that leads off this book starts with, as the groom lifts the veils from her delicate temples, I'm thinking someone should warn them. And that, I think, says it all. Everybody's ready to go, they're so in love, and somebody should warn them. Life's headed their way.
Et la phrase que j'ai mis en exergue du livre, qui est lorsque le jeune marié lève le voile de ses temples délicates à elle, je me dis quelqu'un devrait les prévenir. Quelqu'un devrait les prévenir que la vie va être plus compliquée. Et c'est ce qui m'intéresse.
Dans vos romans, il y a une constante. Tous les personnages que vous décrivez sont souvent très manuels. Ils construisent, ils déconstruisent. Taz, il est menuisier. Il est en train de construire une maison avec Marnie, lorsque Marnie décède. Alors, je me suis demandé quelle importance ça avait pour vous, en fait, de faire de vos personnages des artisans de leur propre vie.
That's pretty good.
C'est bien vu.
Yes, in a way, it's to shape their own lives. And I use that kind of as a metaphor through the whole book. Taz is building his house and his life. But more often I find in fiction that I don't like, they forget that people have jobs. They just are people in a void, people in a sitcom. They lead their lives together, but they never go to work. And so in Montana, you have to go to work. And usually the jobs are work that use your hands. And I've worked as a carpenter, so it was something I knew and was able to put into the story.
Oui, d'une certaine manière, j'utilise le travail manuel comme une métaphore de quelqu'un qui est en train de construire sa vie tout au long du livre, La vie en chantier. J'essaye de faire ça. Mais c'est aussi quelque chose qui me frappe dans la fiction, les romans que je n'aime pas. C'est qu'en général, on oublie que les gens ont un métier. Comme dans les sitcoms, on les voit, des gens vivent ensemble, ils partagent leur vie, mais on ne les voit jamais aller travailler. Et ça ne me semble pas réaliste. Et pour moi, il est important que les gens correspondent à une forme de réalité. Et dans le Montana, souvent, les métiers sont manuels. J'ai moi-même travaillé en tant que charpentier pendant plusieurs années.
J'en profite pour rebondir sur le titre « La vie en chantier ». Qui a changé donc du titre original. J'aimerais bien connaître le pourquoi du changement.
Le titre original du roman, c'est « A job you mostly won't know how to do », un métier que vous ne saurez pas faire, que pour l'essentiel, vous ne saurez pas faire, qui n'est pas un très, très beau titre en français. Et je ne vais rien vous apprendre, mais un titre, ça doit être attirant. Et on a cherché avec La vie en chantier à reprendre l'idée de cette vie en construction, comme vous l'avez souligné, sans être... on ne pouvait pas être littéral. Voilà, on ne pouvait pas faire une traduction littérale sur ce titre-là. Donc voilà, c'est une réponse d'éditeur.
Elle me convient.
I don't know what he said, but
je ne sais pas ce qu'il a dit.
The truth is, when he saw the title in English, he said, "This is the worst title in the history of publishing."
Mais la vérité, c'est que lorsqu'il a vu le titre en anglais, j'ai dit, c'est le plus mauvais titre, c'est le pire titre de toute l'histoire de l'édition mondiale. En français, en anglais, ça marche très bien.
On vous remercie de l'avoir changé. La vie en chantier, c'est bien. Alors, dans vos romans, on remarque aussi une autre constante, c'est que les femmes sont malmenées. Dans le Mon désir le plus ardent, Maddy tombe malade. Dans La vie en chantier, Marnie meurt dès les premières pages. Donc on se demande en fait si un jour vous allez épargner les femmes dans vos romans.
I can guarantee you, in the next novel, no woman will die.
Je vous promets que dans le prochain roman, aucune femme ne mourra.
No wife will even get sick.
Aucune femme ne sera même malade.
Not even a cold.
Elle n'aura même pas un rhume.
My wife has seen to that.
Ma femme s'occupe bien de ça.
But in my defense, in the US, I wrote those two books, if not for this, then a job, seven years apart. So it wasn't I wasn't starting a series of dying women books.
Mais pour ma défense, aux États-Unis, j'ai écrit ces deux livres à 7 ans d'intervalle. Donc, je n'étais pas du tout en train de commencer une série sur des femmes qui meurent.
Parce qu'on finit quand même par se poser la question, en fait, de la figure de la femme qui est souvent la figure de la rupture. Alors, est-ce que c'est une coïncidence?
Yes.
C'est une coïncidence.
No, actually, in the novels, the way I see it, the woman is by far the stronger character in the story. And so much so that, if not for this, she's the narrator of her own story. And in La Vie en Chantier, she's gone, and she's still not gone. She lives so much inside of Taz that she's still a major force in the story.
En réalité, dans ces romans, les femmes sont de très loin les personnages les plus forts. Dans Mon désir le plus ardent, c'est Maddy qui raconte l'histoire et c'est un personnage très fort. Et dans La vie en chantier, Marnie, même si elle meurt au début du livre, est tellement présente dans la vie de Taz que c'est comme si elle n'était pas partie. Donc ça reste des personnages très forts.
On vous en remercie. Les femmes sont malmenées, mais les hommes ne sont pas très bien lotis, puisque c'est un peu eux qui subissent aussi le quotidien et qui deviennent un peu des héros du quotidien. Alors, je me suis demandé si c'était pour vous le rôle qu'aurait dû avoir un homme dans cette situation ou c'est le rôle que vous auriez aimé avoir dans cette situation.
My wife is here, so I can't say I already am a daily hero.
Ma femme est juste là, donc je peux vraiment pas dire que je suis un héros du quotidien.
But I think that life, parenting maybe in particular, is simply trying to figure out what to do next. There's no instructions, and it's hard to even have a plan. Just what's going to happen today, and how will I react to it? And especially parenting, it's very much a free-form game, and so the characters in the books just lead their lives that way.
Mais je pense que la vie, et particulièrement le fait d'être parent, est un vient sans manuel d'instruction. On ne sait jamais comment on va devoir s'y prendre à l'avance. On va d'un jour à l'autre, on essaie de faire au mieux de nos possibilités quotidiennement. Et je pense que c'est comme ça que les gens vivent.
I've never once even thought of the word hero. They're just guys trying to get through the day and do their best.
Et jamais une seule fois ne m'est venu à l'esprit le mot héros. Ce sont juste des personnages, des gens qui essayent de faire de leur mieux pour traverser la vie et aller d'une journée à une autre.
Vous parlez justement du rôle de père, et il me semble que c'est quelque chose d'important pour vous. Dans Indian Creek, vous partez à l'aventure insouciant. Dans Le Nom des Étoiles, vous êtes devenu père et vous semblez dévoué au bien-être de vos enfants. Dans La Vie en Chantier, on assiste à la mort de Marnie. Taz devient veuf en même temps qu'il devient père. Donc je me suis laissé dire que la figure du père avait une vraie importance dans vos romans.
I think it's the hardest job you'll ever have. And the once I started the story, his being a father was going to be the biggest push. And it's the reason he couldn't fold up and just go away after Marnie died was he has to be a father. He has to take care of this baby. And that's the drive of the whole story. So it's really a story about parenting.
Oui, je pense que être père est le job le plus difficile qu'on puisse avoir. Quand Taz se retrouve sans Marnie, c'est le fait qu'il soit père qui est le moteur qui devient le moteur de son existence. C'est ça qui le pousse à continuer. Et je pense en effet qu'il n'y a rien de plus difficile et de plus exigeant.
Il y a un personnage que l'on n'a pas encore évoqué jusque-là, c'est celui de Midge, qui est donc le bébé de Marnie et de Taz. C'est un personnage qui est un peu particulier, puisqu'à la fois il est extrêmement présent, mais en même temps il est un peu absent, puisqu'il ne s'exprime évidemment pas comme un adulte. Je me demandais en fait comment vous l'aviez envisagé, Midge, comme personnage.
She was tough, because the worst thing you can do in a story is make the baby cute. Oh, look at her, she's got such cute little hands. And then she's not real, she's a doll. And so I used a lot of our own experiences raising our children. The sleepless nights, the walking around the house with a sick baby did not require any imagination. It's branded into me.
C'était un personnage difficile parce que je voulais éviter de tomber dans le cliché du petit bébé tout mignon avec ses mignonnes petites mains. Ça en aurait fait un personnage caricatural et pas réaliste. Mais en réalité, je n'ai pas eu à aller chercher très loin la manière dont elle se comportait, les nuits sans sommeil, marcher dans une maison en portant un bébé malade. C'est des choses que j'ai vécues, donc c'était tellement important dans ma vie de père, dans mon expérience, que c'était imprimé en moi.
And so it had to be very gradual letting her become a character, because at first a baby really isn't a character. It's this hugely disruptive force, and you get to know them and you have this bond with them that you didn't expect, but they don't really display a personality for a while. So I have to let that grow as the story grows.
Et j'ai dû y aller de manière très progressive pour créer ce personnage, parce que au tout début, un bébé n'est pas un personnage. C'est une énorme force disruptive qui peu à peu prend de la place et qui se développe jusqu'à devenir un personnage.
Et qui dit donc paternité dit aussi famille. La famille est très présente, mais aussi très absente, parce qu'un peu dysfonctionnelle. Taz et Marnie n'ont pas vraiment de très bonnes relations avec leurs parents, mais ce choc, enfin ce drame, va complètement bouleverser leur relation, et notamment avec la belle-mère, avec Lorraine, la mère de Marnie.
Yeah, throughout the whole book, they're building a new family, and it's a different family. His parents are gone. The mother-in-law becomes part of the family more than she had been before, and his Taz's best friend does an incredible job trying to help, and he brings in a babysitter who also becomes the family. So it's not a traditional family, but it's one that works to hold things together.
Tout au long du livre, en fait, je vais décrire le changement d'une famille qui va se reformer après la mort de Marnie, avec la belle-mère qui devient un personnage différent, Taz qui évolue, son meilleur ami qui fait un travail incroyable pour l'aider à élever le bébé, et la babysitter qui arrive et qui va devenir un membre de la famille à part entière. Donc j'essaie de recréer cette famille d'une manière non traditionnelle, mais qui fonctionne.
Et effectivement, on n'avait pas encore parlé de Rudy et d'Elmo. Ils ont une très grande importance, en fait, dans la reconstruction de Taz. Alors, je me posais la question de quel est le rôle de l'amitié, en fait, pour vous.
When I started the story, I was sure I was writing about a man raising a baby alone. And in the first page, he walks away from the baby starts crying, and I'm writing along, what's going to happen? And it's like, well, I'll make the baby stop crying, because then he has to do something. And so the baby stops crying, and he turns to run for the baby. But he finds his best friend standing in the door, holding the baby and the diaper bag, saying, we should probably figure out how to feed this thing.
Au début, lorsque j'ai commencé le livre, j'étais persuadé que j'écrivais un livre sur un homme seul qui allait devoir élever un bébé par lui-même. Et lorsque j'ai commencé à écrire et que Taz se retrouve seul avec un bébé qui pleure, à un moment, le bébé s'arrête de pleurer, il se rend dans la pièce et là, il trouve son ami Rudy avec un sac de couches, le bébé dans les bras, qui dit on devrait commencer à trouver le moyen de nourrir ce machin.
And so his friend became incredibly important. He was the one who kind of pulled Rudy up, or pulled Taz up, and said, you have to take care of this. You can't give up. And that starts the entire family.
Et donc le personnage de Rudy devient extrêmement important. C'est lui qui va forcer Taz à se prendre en main. Tu dois faire ça, tu dois t'occuper de la petite, tu dois retourner travailler. Et donc, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus d'importance dans le livre.
Sachant que Rudy, en fait, devient effectivement essentiel, puisque Taz a vraiment beaucoup de mal à créer une relation avec Midge, qui est née dans des circonstances extrêmement difficiles, qui ont donc causé la mort quand même de sa femme. Donc, il établit très difficilement une relation avec sa fille, finalement.
I didn't think it was that difficult. In fact, in the first month of her life, before Taz has to go back to work, she's really his only connection to life. He takes her back up into the wilderness where he and Marnie always used to go, and takes her swimming in the river, and she's really the thing holding him to the planet at that time, and they start to develop that relationship very early. And as he does take her into the wilderness, that's where he starts to finally tell her about her mother. And
en fait, je pense pas que Taz ait tant de difficultés que ça à établir une relation avec sa fille. Au tout début, alors qu'il est en deuil, c'est sa fille Midge qu'il maintient reliée à la vie. Et lorsqu'il retourne travailler, qu'il l'emmène ensuite en pleine nature pour passer des moments seuls avec elle, et qu'il commence à lui parler de sa mère, c'est Midge, la petite, qui lui fait, qu'il raccroche à la réalité, à la vie et à la mère qu'elle a perdue.
In that secret safe place they have in the wilderness, He feels safe enough to start talking about her mother, but it's still so difficult. He does it. He makes a fairy tale of it. It says, your mother's this adventurer. She's out on the high seas. She misses you. She's coming back. And that's really the only truth that he can face at that time. And then as Midge gets older and will start to understand language, he's got to wean himself away from that to tell her much more the truth about her mother.
Et lorsqu'il se rend dans son endroit sûr, ce coin dans la rivière où lui et Marnie allaient nager, et qu'il est avec sa fille Midge, c'est le seul endroit où il se sent en sécurité, suffisamment en confiance pour lui parler de sa mère. Mais en même temps, il commence à lui raconter des contes. Ta mère est une grande aventurière, elle est partie sur les océans, elle pense à toi, elle reviendra. Mais au fur et à mesure que Midge grandit, qu'elle commence à comprendre le sens des mots, elle comprend le langage, il est obligé de s'éloigner de cette illusion et de ce mythe qui s'est créé.
Alors, vous parlez effectivement de ce moment un peu de communion entre Taz et Midge dans la rivière, où c'est le seul moment où il peut lui parler de sa mère, cette mère qu'elle n'a jamais connue. Pour moi, ça pose un peu la question du souvenir et du deuil. Comment, en fait, on fait pour faire un deuil tout en se souvenant de sa famille ?
If I understand the question.
Si nous avons bien compris la question.
I don't think it's a question. I don't think it's a choice. You have to deal with the memory of someone after they die, because someone dying does not erase them. They simply stop, and everything that they were to you the day before, they are still to you, and so they live on. And inside of Taz, Marnie lives on inside of Taz, and still has the same effect on him. And so he doesn't ever consider, how do I deal with this or anything? She's just there.
En fait, je pense que on ne peut pas ne pas se poser la question du souvenir. Le souvenir est toujours là. Lorsque quelqu'un meurt, la personne ne disparaît pas complètement de votre vie. Ça s'arrête juste, mais la personne qui était là hier fait encore partie de vous, et tous les souvenirs, tous les moments et tout ce qu'elle représente pour vous fait partie de vous et le feront toujours partie de vous.
Moi, j'ai quand même le sentiment que Taz, au départ, il est un peu dans le refus du souvenir. Il raconte ses histoires fabuleuses à Midge de cette mère aventurière, mais il va le refuser, par exemple, qu'il y ait une photo d'exposée dans le salon. Alors, est-ce qu'il accepte finalement ce souvenir, ou tout du moins de le partager avec Midge finalement?
Yes.
Oui.
He's very much trying to keep. He's not trying to erase a memory at all. He thinks a photo is unnecessary. That to him, Marnie's a photo is what was. And he's keeping Marnie going. So it's much more of a reaction of, I don't want to deny her memories. I want to deny that she's not here. Does that make sense? Mm-hmm.
En fait, il n'essaye pas de ne pas se souvenir de Marnie. Pour Taz, une photo est simplement le souvenir de ce que Marnie était à un moment donné, alors que pour lui, elle est toujours vivante dans sa tête. Il refuse de s'arrêter à quelque chose qui était dans le passé, mais il veut continuer à la faire vivre dans son souvenir.
So he still hears her, not like a ghost, but when he does something stupid, he hears exactly what she'd say. And when he does something that she with Midge, that she's like, no, not don't do that. Come on, you know, pick her up. She's still right there with him through the whole story.
Et en fait, elle continue à l'accompagner, pas comme un fantôme, mais dès qu'il fait quelque chose de stupide, il entend déjà ce qu'elle dirait à ce moment-là. Lorsqu'il s'occupe de Midge, il l'entend lui dire « Mais non, on fait pas ça ». Donc, elle est toujours avec lui.
Donc, on a beaucoup parlé un petit peu de votre versant intime, du Pete Fromm intime. Mais il y a aussi le Pete Fromm qui nous parle de la nature. Et la nature est très présente aussi dans ce roman. C'est là qu'à mon avis, les deux Pete Fromm se croisent, en fait. Et il me semble que donc la nature a une grande importance dans ce récit, puisqu'il ressemble une échappatoire. En fait, il est une échappatoire pour Taz et Midge. Qu'en dites-vous?
Yes, in this story, it's definitely their safe place. They met on a river, and they go back into the wilderness. They're living in a house they're tearing apart. It's filthy, it's dirty, and they're still young enough and crazy enough to say, this is cool, this is fun. But really, it's sort of miserable. And when it gets too hard, out to the wilderness and remind themselves why they're working so hard to stay there. And so it's their refuge.
Oui, la nature est très importante dans ce livre parce qu'elle est en fait l'endroit sûr, le refuge de Taz et Marnie qui se sont rencontrés sur une rivière. Et alors qu'ils vivent dans une maison à moitié construite, qu'ils essaient de retaper, ils sont encore jeunes pour se dire oui, c'est cool, c'est amusant, mais en fait, c'est un peu misérable. Et par moment, quand ils en ont marre et qu'ils veulent échapper au quotidien, ils filent et sur la rivière et ils vont se rappeler. Les raisons qui les font rester en Montana.
And earlier I said that in Montana the landscape is a character that won't stay in the background. And from Missoula, where they live, you can just turn north and you're looking into a wilderness area. It's right there. And so that's where their safe place is. I think other safe places for other people in other places can be completely different.
Et tout à l'heure, je disais qu'il était pratiquement impossible dans le Montana d'échapper à la nature sauvage lorsque vous êtes à Missoula, là où vivent Taz et Marnie. Si vous vous tournez vers le nord, tout de suite, vous avez sous le regard des espaces sauvages, une zone sauvage. Et leur endroit sûr, leur refuge est dans cet endroit-là. Pour d'autres personnes, dans un autre lieu de vie, ça serait sans doute ailleurs.
À un moment donné, vous évoquez des feux qui ravage complètement la forêt. Et étonnamment, tout le monde s'en fiche. Tout le monde parle de ces feux comme si c'était quelque chose de banal. Or, bien évidemment, avec l'actualité aujourd'hui, ça nous pose un petit peu question. Est-ce qu'il faut y voir un message engagé de votre part ?
In the US, for 100 years, they fought every fire that they could. And what they created was a disaster because the forests had evolved with fire. And it would clear out the underbrush, the trees would be stronger, and some trees required fire even for their seeds to start growing. They stopped all that, and so there's all this fuel, and now we're paying for it by these fires becoming huge. So they're starting to let fires burn in order to restore it to the natural way.
En fait, aux États-Unis, pendant une centaine d'années, on a combattu tous les feux qu'il y avait. Et en fait, ça a créé un désastre écologique parce que les forêts ont besoin de feux pour vivre, se développer et se régénérer en laissant brûler les petits bois, les bois morts, etc. Donc tout le carburant, ça permet aux autres arbres de grandir, d'avoir de la place. Il y a même des espèces d'arbres qui ont besoin de feu pour pouvoir se reproduire. Et donc depuis quelques années, on laisse les feux se développer aux États-Unis pour permettre aux forêts de se régénérer.
And with global warming, the fires are becoming bigger. They start earlier. They last longer in the season. So it was really just a realistic thing to put in the story. In Missoula, we have smoke every summer that sits in the valley and stays with us for weeks or months.
Et avec le réchauffement climatique, les incendies sont de plus en plus violents, commencent de plus en plus tôt, durent de plus en plus longtemps, et ça fait vraiment partie de notre quotidien à Missoula. Chaque été, il y a des épisodes où il y a des jours et des jours en plein de fumée dans la vallée qui restent là pendant plusieurs semaines même.
So to set a story there and not have fire and smoke would be unrealistic.
Et donc, situer une histoire à Missoula pendant un été sans avoir des feux de forêt ou de la fumée serait irréaliste.
Donc, on a beaucoup parlé du contenu. Et j'aurais aimé qu'on évoque un petit peu la forme du roman, puisque les chapitres sont numérotés. La mort de Marnie et la naissance de Midge commence avec l'intitulé du roman Jour numéro 1. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce choix narratif?
Day zero is the day that Midge is born, which is a pretty good day. except it's also the day that Marnie dies. And I started, okay, that's day zero. What's going to happen next? And it was a way to keep track of where is Midge? How old is she? What should she be able to do now? Like you would with any baby. You know, oh, she's 2 weeks old. She's a month old. How old is your baby? She's 6 weeks old. But it was also to show where Taz is too, where he's, you know, how's he doing? How long is it taking? And it was building up to day 365, which is a birthday, which he has to celebrate. But it's also the day that marks the worst thing that's ever happened to him.
En fait, je voulais me servir de ça pour marquer l'évolution de Midge, le jour zéro, le jour de la naissance de Midge. C'est une bonne journée, mais c'est aussi le jour de la mort de Marnie. Donc en fait, les chapitres marquent l'évolution dans la vie de Midge. Comme on dit d'un bébé, il a 2 semaines, il a 3 semaines, il a 6 mois. Et en même temps, lorsqu'on continue à avancer, c'est aussi la manière dont Taz évolue et réagit et s'adapte et survit au deuil de sa femme jusqu'au jour 365. C'est l'anniversaire de Midge, mais c'est aussi l'anniversaire de la mort de Marnie, donc le jour le plus triste et le plus heureux de la vie de Taz.
And it also accentuates if this is the beginning of a new life, and it shows that the day-to-day, the way he approaches it. So I think it works for the book. Technically, it was the worst idea I ever had.
Et c'était un choix qui permettait d'accentuer la progression quotidienne de Taz et de Midge. Donc, mais je pense que techniquement, c'était le plus mauvais choix.
Because as I wrote the first draft, I was very okay. Now it's a month later, and the dates all fell in easily. But then I spent 6 years rewriting it, and I took pieces out. And I put new pieces in, and I moved this piece from here to here, and pretty soon the days were so wrong that it took finally 2 copy editors working with spreadsheets to try to get the days lined up in the right order again.
Mais en fait, c'était techniquement un mauvais choix parce que dans la première version du roman, il n'y avait pas de problème dans la chronologie. Je voyais les personnages évoluer, mais après, j'ai passé 6 ans à réécrire le livre, à enlever des chapitres, à en rajouter d'autres. Et c'était le bazar dans les jours. Plus rien ne collait à tel point qu'il a fallu 2 éditeurs avec des tableaux Excel et des dates et les résumés des journées pour tout remettre dans l'ordre bien comme il fallait.
My editor in the US said, the way you did that is one of my favorite things in the book and I will never do it again.
Mon éditeur américain m'a dit ce que vous avez fait là, c'est une des choses que je préfère, mais je ne veux plus jamais le faire.
Donc vous nous parliez un petit peu de vos choix narratifs, du temps que vous mettez à écrire un livre. Quelle est votre routine un peu d'écrivain ?
It's sort of horrifying.
C'est en fait horrible.
I wake up way too early, and usually between 4 and 5, and start to write before anything else can get in the way, before I see news, before I look at email. I just make coffee and go back to where I was in that life.
Donc c'est en quelque sorte horrible. Je me réveille beaucoup trop tôt, en général entre 4h et 5h du matin, et je commence à écrire tout de suite avant que quoi que ce soit d'autre ne vienne interférer dans mon écriture. Je me fais du café, j'écoute pas les news, je regarde pas mes emails, et je commence à reprendre là où j'en étais la veille.
But if I wake up earlier, it's terrible. I just go, don't think, and then you think, and then the story starts going, and I know I'm not going to go back to sleep, so I get up and go to work. And if it's after 3 o'clock in the morning, but before 4, Rose, my wife, will just sort of go. But if it's before 3, I'd be, really? And if it's before 2, say, no.
Et donc, chaque nuit, j'essaie de m'interdire de penser, si jamais je me réveille en plein milieu de la nuit et que je commence à à penser. Je me dis non, réfléchis pas. Et pouf, je commence à avoir des idées pour le livre, donc il faut que je me lève pour aller écrire, sinon ça, je les oublierai, ça sera trop tard. Donc si ça se produit avant 3 heures du matin, entre 3 et 4 heures, entre 3 et 4 heures du matin, ma femme se contente de pousser un soupir, mais si c'est avant 3 heures, entre 2 et 3 heures, elle va dire non, vraiment. Et si c'est avant 2 heures du matin, elle va dire même pas en rêve, tu restes là.
And I do that 7 days a week, 365 days a year.
Et c'est comme ça, 7 jours par semaine, 365 jours par an.
Et vous dormez quand?
10 to 2, 10 to 3, and then try to sleep as late as I can. It's hardly ever till after 5.
Entre 10 et 2, 10 heures et 2 heures du matin, 2 heures, 3 heures du matin. Quand j'essaie de dormir dès que je peux, mais je dépasse rarement 5 heures.
I don't recommend it.
Je vous conseille pas ce genre de vie.
Donc vous êtes publié aux États-Unis, mais vous êtes aussi publié en France. Et vous êtes publié aux éditions Gallmaster, créées par Oliver Gallmaster, qui vous traduit en ce moment même. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de votre rencontre?
This is a complete aside, but you don't know what Oliver's whispering to me up here. The translation for that was, I am so good, I am so great. He's very helpful.
Vous ne savez pas ce que Oliver est en train de me murmurer à l'oreille. Il disait, je suis trop bon, je suis si bon.
The first time we met was, he sent an email inviting me to France because Indian Creek was doing very well and a festival had asked me to come over.
Je sais pas, je suis en train de réfléchir à savoir si je vais parler de moi à la troisième personne, mais oui, puisque c'est Pete qui parle. Donc la première fois que j'ai rencontré Oliver, il m'a envoyé un email pour me demander si j'étais prêt à venir participer à un festival en France.
And that was the very first that I knew that I had a book in France. My publisher in the US forgot to tell me or pay me.
Et en fait, c'était la première fois que j'apprenais que j'étais publié en France. Mon éditeur américain qui avait vendu les droits avait oublié de me prévenir ou de me dire quoi que ce soit.
So I didn't believe it.
Donc,
I thought it was my friends down at the bar at 1 o'clock in the morning, just let's write Pete and see if we can get him to fly to Paris.
Et donc j'ai cru que c'était des amis à moi qui étaient dans un bar à 1h du matin en train de se dire bon, on va faire une blague à Pete, on va essayer de voir si on peut l'envoyer en France.
So he sent me proof, reviews, book covers, and I came over and met him.
Et donc il m'a envoyé des preuves, des images de la couverture du livre, des articles de presse, et je suis venu en France.
Et donc même question, Oliver, finalement, puisque Indian Creek, vous êtes allé le chercher, mais comment l'avez-vous trouvé?
Je ne sais. Excusez-moi, il m'embête. Écoutez, je ne sais plus. Je pense qu'un agent m'avait parlé de ce livre-là. Je l'avais lu l'été 2005. La maison d'édition avait été créée en février 2005. Je n'avais sorti aucun livre. Je me souviens très bien de l'endroit où je l'ai lu, en Bretagne, chez mon oncle Jean-Louis. Voilà. Je suis tombé amoureux du livre tout de suite. Je ne me suis même pas posé la question. C'était un des rares livres qui parlait de nature, qui faisait rire et qui était émouvant jusqu'aux larmes. Donc, j'ai essayé de le publier. Un éditeur, ça rencontre un livre comme un lecteur, en fait, par hasard.
Il a une question plus difficile. Quelle place a Pete Fromm, finalement, dans votre catalogue ?
Pete, c'est une très belle rencontre parce qu'on est très amis, comme vous pouvez le voir. Alors moi, je suis très attaché à tous mes auteurs. Je suis très paternaliste, mais Pete, c'est l'un des premiers auteurs qu'on a publié. On a publié près de 300 livres maintenant aux éditions Gallmeister. C'est le cinquième livre qu'on a publié. On en a publié 8 de lui. Moi, je pense que c'est un classique, un classique contemporain, que c'est un auteur qui est important pour... comprendre la littérature américaine, et je suis très heureux et très fier effectivement qu'on ait contribué à le faire connaître en France, parce que je pense que le destin de la maison et son destin éditorial en France sont très liés. je pense que son talent et son travail rejaillissent sur notre travail. Je pense qu'on a des très belles rencontres amicales, mais avec les lecteurs, avec les libraires. Pete est venu, how many times did you come to France? 12 fois depuis 12 ans qu'on se connaît, 15 ans qu'on se connaît. Voilà. Donc il fait partie de notre vie, de ma vie tout court. Voilà.
I cannot tell you how nervous this makes me to have him talking about me, and I can't understand that. The very first conference I did come over for, the very first time I ever spoke to any audience in France, he was translating for me. He didn't tell me what we were talking about. And so he just says, go ahead. So I said, hi, my name's Pete. I'm very happy to be in France with my book, Indian Creek Chronicles. And then he went like this and then translated for about 10 minutes. And everybody in the audience was laughing and like hitting each other. They just thought it was so much fun. And I finally put my hand over the mic and said, Oliver, what are you telling them? Oh, for many minutes now, I have only been making fun of you.
Vous n'avez pas idée à quel point ça me rend nerveux de le voir traduire comme ça, enfin parler sans que personne me traduise ce qu'il est en train de dire. Parce que la première fois que je suis venu en France et qu'Oliver a traduit mes propos, on était à une conférence et moi je ne comprenais rien à ce qui se passait. Et puis on me donne la parole et je me présente, je dis voilà, je m'appelle Pete Fromm, je suis l'auteur d'Indian Creek et puis je suis très heureux d'être là. Et puis Oliver prend la parole et puis il parle pendant 5 minutes et les gens rigolent et ça dure et ça dure. Et puis à un moment, je lui dis, mais de quoi tu leur parles? Et j'aurais dit, mais c'est pas vrai en fait. Vous savez que c'est un écrivain qui raconte n'importe quoi. Mais j'aurais dit, ne t'inquiète pas, depuis 5 minutes, je plaisante à ton sujet. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais je pense que c'est apocryphe cette histoire, franchement. I don't remember it.